Radio éphémère 89.1 MHz.
CPU, carré et petit utile.
Dans cette release de CPU, des nouilles faites main, une sauce open source, de la technologie dans les pattes et une divinité avec deux boulettes. L'équipe aujourd'hui d'Ascritch, Benoît et Enflammé. Et j'espère que vous n'avez pas trop faim. Allez, les smartphones sur silencieux, on y va en cuisine. Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui commences à avoir une fringale parce qu'il est 11h02 et que t'as pas pris ton goûter lors de la récré tout à l'heure. Et le jeudi, c'est des nouilles à la cantine. Je vais te mettre la dalle. Pendant une heure, avant de déjeuner, je vais te mettre la dalle. Ça me fait marrer car 30 ans après cette chanson, Joey Starr avait lancé une revue culinaire plutôt goûtue, voire gastronomique, Five Star. Mais revenons à ta pause déjeuner de dans une heure. Je parie que tu vas tricher comme un bolino et sortir un bol de ramen instantané. Sauf que, tu sais que chez nous, dans le labo où on fait notre émission, on adore mettre la main à la pâte. Alors, on va te faire faire des nouilles. Depuis le début ! Tu prends une céréale ou un légume riche en amidon. Tu peux prendre du blé tendre, du riz, du sarrasin, de la patate douce ou même des dreshes d'une craft beer. Tant qu'il y a du gluten, ça colle. Tu la broies en farine, il te faut une farine plutôt fine. Donc tu la broies, tu la broies, tu la broies. Cette farine, tu la délaies avec de l'eau et tu mélanges. Tu malaxes jusqu'à avoir une pâte sans grumeaux. Tu vas bien la travailler. Ça va te détendre les poignets après une intense session de programmation au clavier puisque t'as pas encore essayé la Powerball. Cette pâte, tu vas l'étaler, l'étirer, la laminer. La couper en longs filaments, l'extruder pour en faire des formes allant des spaghettis au penne rigate. Les penne rigate, c'est comme les penne, mais avec des rayures. Ensuite, tu peux la cuire à l'eau bouillante. Mais tu peux aussi la faire sauter ou les passer au four façon lasagne ou seulement la retremper dans l'eau comme les feuilles de rouleau de printemps. Allez, ramène-toi par ici que je te montre. T'attrapes avec les baguettes, comme ça, et tu aspires. En faisant du bruit. En Asie, quand tu manges en aspirant bruyamment, tu montres que tu trouves le repas très bon. C'est donc un respect pour ton hôte. Mais ne le dis pas à ta mère que je te l'ai dit, elle va encore me disputer. Bon, pour les nouilles italiennes qu'on appelle pasta, il vaut mieux les manger avec une cuillère et une fourchette et sans bruit, par respect pour tes hôtes. De toute façon, tu peux pas parler en italien tout en mangeant, tes mains sont prises par la fourchette et la cuillère. Bah oui. Paraît que le terme français « nouille » vient du mot allemand « nudel » qui veut dire « pâte ». Comme quoi on aura beau mélanger, laminer, extruder la matière première, son origine revient toujours en blitz. Enfant du futur immédiat, il y a un quart de siècle, j'étais à Tokyo à la fois pour le lancement de la téléphonie 3G et pour un festival d'art moderne intitulé « La Nouvelle Manga ». J'étais dans le quartier de Ueno pour ce festival et des connaissances journalistiques, dessinateurs, mangaka m'ont proposé d'aller au restaurant avec eux. On est entré, par un porche, dans une cour d'immeuble qui était un vrai jardin. Un premier choc, car déjà on quittait l'ultra-urbanité de Tokyo, on entrait dans un écosystème intime en bon voisinage. Ce jardin, on l'a traversé vers un autre porche au fond, traversé un autre jardin. Et là, je me suis retrouvé dans un restaurant à la décoration à la fois chic et minimaliste, assis en tailleur devant une grande table qui était une seule tranche d'un tronc d'arbre impeccablement ciré. À l'entrée de l'établissement, un cuisinier à la corpulence qui force le respect manipulait deux immenses peignes en écartant grand les bras pour étirer une boule de pâte couleur grise. Il façonnait des nouilles fraîches de germes primeurs de sarrasin fraîchement moulues dans sa cuisine. C'était tout ce que proposait ce resto, un bol de nouilles dans une soupe. je me suis pris une claque olfactive et gustative monstrueuse. Je n'avais jamais mangé des nouilles artisanales, servies telles quelles sans sauce, et qui déployaient sur mon palais leur goût incroyable. Le pire étant que 25 ans après, je serais totalement incapable de retrouver le restaurant en question car j'aurais bien aimé y retourner avec ma moitié d'amour. À l'époque, ma connaissance culinaire sur le sujet se limitait au test technique du spaghetti qui doit rester collé au plafond pour que tes pâtes soient bien al dente. Comme le plafond chez moi était à 3 mètres de haut et que j'avais pas d'escabeau, je te laisse deviner combien j'ai galéré avant l'état des lieux en déménageant. Enfant du futur immédiat, les pâtes ou les nouilles, peu importe ce que tu as sous la main, c'est une fondation. Et sur cette fondation, tu vas construire ton plat de résistance. Bon app ! Avant de lancer cette émission, je pense utile d'expliquer qu'elle était originellement prévue pour être enregistrée le mardi 17 mars 2020 chez Shinya Ramen, rue Lancefoc à Toulouse. Vous savez ce qui s'est passé ce jour-là ? Bah, c'était le premier jour du grand enfermement, comme le dit Benoît, le premier jour du premier confinement du Covid-19. L'émission prévue sur les ramen a plusieurs fois été reculée et finalement annulée à la demande de sa productrice. Et c'est bien dommage, car sur le sujet des nouilles, nous en avions des choses à dire, car il y a d'incroyables ponts culturels avec l'IT. Et je ne parle pas que du plat de spaghetti à l'arrière de vos serveurs. Donc pour le coup, j'ai cherché dans les 2-3 émissions ayant presque la même thématique, des propositions de sujets de conférence et les discussions de préparation que nous avions eues. Et pas que dans la cuisine, pour vous proposer un menu riche qui vous remplira à satiété et vous emmènera de 11h à pile poil midi. Et pour compléter, un de nos collègues de Radio FMR, Did You Know Breakfast, a fait un podcast de Radio FMR à écouter pour la durée de la cuisson des pâtes. Et n'oubliez pas que le temps de cuisson, justement, c'est pas quand tu mets les pâtes dans la casserole, c'est quand l'eau se remet à bouillir.
Bene, gnocchi, fusilli. We've been working all day, let's kick back and take a little break. The sunset is shining its light on you again.
Johnny Simpson, Tim Atlas et Jis Barrera, Ramen. Vous écoutez Radio FMR ? S'il y a bien un aliment qui s'est popularisé dans les open space durant les 20 dernières années, ce sont les nouilles instantanées. Soit suite à un brassage avec des équipes basées en Asie, soit parce que les nouvelles générations lisent des mangas ou écoutent de la K-pop et ont fait un voyage initiatique sous ces longitudes, soit parce que c'est pas cher, c'est très pratique et la supérette asiate n'est pas loin. Ces nouilles instantanées, ou ramen, se mangent chaud dans la salle repas ou comme une friandise au-dessus du clavier. Pour vous dire combien elles sont populaires, c'est très simple quand on compare. Il y a plus de mètres linéaires en nouilles instantanées dans les supérettes en Asie qu'en eau minérale en France. Nous voulions faire une émission sur les ramen et on s'est retrouvé bloqué dans notre élan par un virus importé de Chine. On devait enregistrer pile le premier jour du confinement. Heureusement, les nouilles instantanées se conservent longtemps dans leur emballage. On a décidé de rouvrir le paquet. Le dossier. Et le créateur des nouilles instantanées a eu un destin assez exceptionnel. Go Pei-hok, né en 1910 sur l'île de Taïwan. À cette époque, l'Empire japonais traite Taïwan, la Corée et une partie de la Chine comme ses colonies, avec brutalité envers les indigènes qui ne s'adaptent pas aux mœurs de l'occupant. Né de riches parents chinois, il devient très jeune orphelin et sera élevé par ses grands-parents qui tiennent une boutique de kimono. Le jeune homme a hérité de la bosse du commerce et monte à 22 ans une entreprise de vente de tricots japonais. Très vite, il ouvre une succursale à Osaka, au Japon, où il emménage en 1933 et adopte la nationalité japonaise avec un nouveau patronyme, Momofuku Ando. Mais si ses affaires semblent alors florissantes, la Seconde Guerre mondiale va le ruiner. Il sera incarcéré pour recel sur le marché noir et après le conflit, il retournera 2 années en prison, cette fois-ci pour évasion fiscale. À sa libération en 1948, il fonde Nissin Foods, où il produit et distribue modestement du sel. Dans un Japon post-guerre en proie aux pénuries alimentaires, le ministre de la Santé incite la population à consommer du pain fait à base de farine de blé américaine. Position qui surprend Momofuku Ando, puisque ses concitoyens n'ont aucune tradition de pain qu'ils découvrent via l'occupant victorieux. Les Japonais utilisent en général le riz comme base alimentaire et bien souvent sous forme de nouilles. Face à son étonnement, un représentant du ministère de la Santé lui répondra que les compagnies locales productrices de nouilles sont bien trop petites pour pouvoir répondre à la demande du marché national. À l'oreille de l'entrepreneur, ce constat sonne plus comme une opportunité à saisir, lui qui cherchait justement un gagne-pain. Outre reconvertir sa boîte Nissin Foods dans la production de nouilles, Momofuku Ando va chercher un moyen de produire rapidement des portions individuelles à prix modique et trouver un procédé de préparation rapide afin de se démarquer de la concurrence. Il a l'idée de produire une soupe de nouilles au poulet, cette viande étant la source de protéines animales la plus économique à l'époque. À force de tests et d'expérimentations dans le cabanon de son jardin, il crée en 1958 un procédé simple et efficace. La friture éclair. Ainsi naquirent les nouilles instantanées. Avant d'expliquer en détail le procédé de préparation des nouilles instantanées en friture éclair, je vous recommande très fortement de dégager votre cuisine, de pouvoir éteindre très vite à source de chaleur et d'avoir sous la main des torchons humides, un bac d'eau froide en cas de brûlure et bien évidemment un téléphone prêt à appeler le 112. Car sachez que nous allons manier une technologie de pointe. La friteuse.
Les friteuses Seb sont encore les plus vendues au monde.
Les friteuses Seb sont encore les plus vendues au monde.
Les friteuses Seb, oui, les friteuses Seb.
Oui, les friteuses Seb.
Vous prenez des nouilles fraîches, de riz, de sésame ou de blé, qu'importe, d'un format plutôt long et fine, nouilles fraîches que vous avez fait cuire de manière traditionnelle en les bouillant dans l'eau. Eau de cuisson où vous ajoutez l'assaisonnement, ici un ragoût de poulet. Ces nouilles cuites et parfumées, vous les égouttez, vous les épongez, vous laissez sécher. Puis vous les jetez dans une huile sans goût, genre huile de colza ou de palme, portée à 180 degrés pendant 2 minutes maximum. Égouttez et épongez l'excès de gras, puis ensachez chaque portion dans un emballage étanche à l'air et à l'eau. Et voilà, c'est prêt à vendre. Pour le consommateur, le manuel de ces chicken ramen est extrêmement simple. On ouvre le sachet.
Non, c'est pas pour toi, le chat.
On met les nouilles dans un bol, on verse de l'eau bouillante. On referme avec une assiette, on attend 2 minutes et voilà, c'est prêt à déguster. Alors oui, ça n'a pas exactement le même goût que les nouilles fraîches, mais justement, la friture leur a donné ce petit goût appétant. Oui, vous doutez bien qu'un tel mot ne vient pas de moi, mais d'Enflammé qui a fait les recherches, les expérimentations, une bonne partie du texte. Si le produit a un succès mondial de nos jours, au départ, les nouilles instantanées de Momofuku Ando coûtent 6 fois plus cher que les nouilles fraîches. Ah oui, c'est salé comme prix. Inutile de vous dire qu'il part avec un sacré handicap pour se faire une clientèle. Un coup de main viendra en 1959 de la Mitsubishi Corporation, qui lui fera de la publicité dans le cadre d'un effort pour la reconstruction du Japon et par la promotion de PME innovantes. Et la pub marche. Et plus Nissin en vend, plus les coûts de production, donc le prix de vente, baissent. De mets de luxe, les nouilles instantanées deviennent un phénomène pop. Avoir créé le produit qui le rendra richissime à 50 ans donnera à Momofuku Ando une certaine philosophie de la vie. Il aura cette phrase superbe dans une interview. « Dans la vie, il n'est jamais trop tard, il m'a fallu 48 ans pour arriver à inventer les nouilles instantanées. » Et sa boîte lui fera honneur en n'arrêtant pas d'innover. En 1971, il va concevoir le bol en polystyrène qui en simplifie la distribution, la préparation et la consommation. L'idée des cup noodles lui serait venue en voyant les étrangers casser en deux le bloc de nouilles pour les faire entrer dans une grande tasse et manger les nouilles à la fourchette. Oui, alors je sais, utiliser une fourchette au lieu de baguette est assez barbare. Je suis désolé pour les puristes de vous avoir mis cette image dans la tête. Et du coup, n'ayant plus besoin de vaisselle, mais seulement d'une paire de baguettes et d'eau chaude, les cup noodles vont devenir extrêmement populaires pour un prix de plus en plus modique. Imaginez la praticité de la vaisselle jetable pour des ouvriers sur un chantier. Les nouilles instantanées deviennent même une friandise qu'on peut manger sec, sans eau, comme un snack. Et une telle gourmandise pour les Japonais que tout récemment, une compagnie aérienne japonaise, qui jusqu'ici les proposait gratuitement sur ses vols intercontinentaux, a décidé de limiter les portions gratuites à 2 par passager, en plus des repas en bol. En vol. Capitalisant sur son produit phare, Nissin construit en 1999 un musée très ludique, le Cup Noodle Museum à Osaka, temple dont le succès a mené à la création d'une succursale à Yokohama. En 2005, Nissin satellise avec l'agence spatiale japonaise JAXA des Space Noodles, chaque portion étant emballée sous vide pour les astronautes et conçue pour être consommée en apesanteur, de la cuisine instantanée de haut vol. Après ce succès, le fondateur Momofuku Ando quittera la Terre en 2007, à l'âge de 96 ans. Et ce qui fait la notoriété des nouilles Nissin n'est pas uniquement parce qu'on les trouve pratiquement dans le monde entier dans les supérettes, mais surtout leur publicité, cinéma et télé, toutes plus space, plus déjantées les unes que les autres. Et comme on passe de la pub, j'ai l'obligation par l'Arcom de citer les principaux concurrents japonais de Nissin, Sapporo Ichiban et Maruchan. En France, le processus de friture éclair arrivera dans les années 1980, popularisé par Maggi avec les bols Bolino.
Quand on n'a pas envie de préparer le repas,
on peut tout de même savourer un bon petit plat.
Aujourd'hui, il y a Bolino,
Bolino, Bolino,
un petit plat tout nouveau.
Bolino, Bolino, c'est tout simple à préparer.
Bolino, Bolino,
4 minutes à déguster.
Bolino, un bon petit plat de pâte pré-cuite, déjà toute cuisinée.
Et si vous décidez de passer aux travaux pratiques, outre nos rappels de sécurité, sachez que le procédé flash fry peut aussi être appliqué pour assécher d'autres aliments, comme les herbes aromatiques. On peut ainsi préparer des chips de basilic, mais la quantité d'eau dans les feuilles demande quelques précautions car l'huile bouillante va forcément gicler quand vous y plongerez les feuilles fraîches. Et enfin, pour terminer, plutôt que faire frire les nouilles fraîches, il est possible de les déshydrater à l'air sec et chaud à 90 degrés pendant 40 minutes. Oui, c'est plus long, mais les nouilles sont alors bien moins grasses et donc plus saines. Mais elles n'auront pas exactement le même goût. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous parlons de nouilles dans cette émission. Oui, il y a de la technologie dedans, et si vous le saviez. Je vais parler d'une sauce. Oui, d'un ingrédient culinaire et qui comporte de nombreuses analogies avec l'informatique. Cette sauce est, malgré ce que vous pouvez croire, produite aux États-Unis. Sa version industrielle originale n'a que 8 ingrédients, sa bouteille a été conçue en faisant fi de toutes les règles de design. Sa production a créé une amitié légendaire dont la fin a provoqué une pénurie mondiale qui a valu un traitement dans les plus grands journaux, une sauce qui a conquis un marché que son créateur n'imaginait même pas atteindre, et surtout, c'est une sauce open source, du nom jusqu'à la bouteille. Je parle d'une sauce devenue incontournable dans la cuisine asiatique, la sriracha. Sa recette est originaire de la ville de Sriracha, en Thaïlande, créée il y a à peu près un siècle, mais qui était quasi inconnue hors de sa région. Sa recette est d'une simplicité proverbiale. Du piment, du vinaigre, de l'ail, du sucre, sel, laissez mijoter puis mixer, et elle peut s'accompagner aussi bien nouilles, feu, rouleaux de printemps, nems, viande et poisson. Plusieurs petits fabricants commencent à la commercialiser en bouteille à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est bien plus pratique qu'en fer. Mais ces petites usines n'arrivent pas à en protéger le nom, puisque c'est celui de la ville, et ils n'arrivent pas non plus à établir un réseau commercial au-delà. Un demi-siècle plus tard, en 1980, David Tran est exilé de son pays suite à la guerre du Vietnam et les répercussions contre son ethnie. Débarqué dans la Grande Amérique, il fonde une société, Hoi Phong, nommée d'après le navire Hoi Phong, qui lui a permis de fuir son pays et qui a créé une crise en arrivant à Hong Kong avec ses 2000 boat people. Arrivé à Los Angeles, il reproduit la recette de cette sauce qu'il produisait déjà au Vietnam, s'étant dit qu'il y aurait une demande chez les expatriés nostalgiques du goût du pays. Il va utiliser un piment local, le jalapeño, qui a son goût et sa force. Cette sauce va faire sa petite niche dans les restaurants de Chinatown et les magasins asiatiques. Mais elle va vite, très vite faire tache, sortir du quartier chinois pour le bonheur d'une population importante de la Californie qui aussi aime épicer le public latino. Une demande qui deviendra très vite très importante, au point que Hoi Phong n'a jamais eu besoin de faire le moindre investissement publicitaire. Il se trouve que leur production est à peine suffisante pour la demande et qu'augmenter les tarifs pour marger plus ne semble pas vraiment avoir intéressé son créateur David Tran, dont le slogan est « Make product and not profit ». La boîte est là pour vendre une gamme très restreinte de sauces à un prix raisonnable et se permettre de payer confortablement ses employés.
Ce n'est pas la peine d'en rajouter.
Alors comment la communauté latina a-t-elle eu vent de son produit ? Le seul acte publicitaire du fabricant a été de mettre son numéro de téléphone, simplement en pensant intéresser d'éventuels grossistes. Ce numéro de téléphone sur la bouteille est un chapitre non négligeable de la légende de la marque, ce qui va lui permettre de devenir la deuxième sauce épicée la plus vendue aux États-Unis en 2025. En 2013, le réalisateur indépendant Griffin Amond produit le documentaire Sriracha the Movie. Dans les premières minutes, on entend le répondeur de la société Hoi Phong où nombre de clients y ont enregistré un message de reconnaissance.
17 old messages.
Now I like your sauce a lot and I just wanted to call the number on the bottle and appreciate it. So I'll talk to you later. Bye.
I just like to compliment your hot sauce. Like, thank you so much. It's the best hot sauce I've ever had.
Thank you, Sriracha.
Au moment de la sortie du documentaire et en préparant l'émission sur le sujet en 2018, j'ai appelé en Californie pour vérifier. Et l'extrême surprise est qu'une employée vous réponde et prenne du temps pour vous remercier sur le compliment sur la sauce. Cette réceptionniste m'a confirmé que l'entreprise reçoit une centaine d'appels de ce genre par jour, alors que ce numéro n'est supposé servir que pour la logistique. Mais ayant passé mon appel il y a 10 ans, l'ambiance a bien changé, et pas uniquement à cause des deux mandats de Trump. Tout comme la relation entre David Tran, qui a fondé la sauce, et son ami d'alors, Craig Underwood, le fermier qui l'a suivi dans une gigantesque monoculture de jalapeño. Celui-ci assure la qualité des fruits, cueillis que mûrs à point et immédiatement cuisinés en usine. Tran ayant assez en réserve en cas d'une mauvaise récolte. Les deux boîtes coexistaient dans une symbiose et une relation exclusive sur un contrat oral de fourniture de la 50aine de milliers de tonnes de piments mûris sous le soleil californien. C'est dans le documentaire. Et il préfigurait le drama à suivre. Mais je vais trop vite. Laissons la sauce monter aux narines. Prenons la bouteille en plastique. Déjà, elle est transparente, donc elle permet de juger combien de sauce il vous reste dedans, ce qui n'est pas fréquent dans les produits alimentaires américains. Marketingement, cette transparence doit agacer des concurrents, ceux dont le business est de faire des sauces bien moins fluides pour en vendre plus. Parce que oui, tu comprends très vite en étudiant ce domaine d'activité que l'un des principes moteurs des industriels ketchupiens, mayonnaisiers, sauces algéroisiers et dentifriciers est que le produit ne doit pas pouvoir être totalement vidé de son contenant. Que le dit contenant doit être opaque pour que le consommateur, ne sachant pas exactement combien il lui reste de produit, en rachète un au plus vite. Vous avez dit anti-consumer friendly move ? Mais oui, c'est exactement ça, avec du biphénol autour ! Revenons à cette bouteille de Sriracha. Le nombre de polices de caractères utilisées sur l'emballage défie l'entendement. On sent que quelqu'un, au début des années 1990, s'est amusé avec le logiciel de dessin CorelDRAW sans trop s'y connaître, essayant de mettre des polices disponibles du soft au petit bonheur la chance et en fonction de ce qu'elle peut y écrire et des informations légales au fur et à mesure qu'elles étaient requises. Arial, Balloon, Balloon Drop Shadow, Impress, Ming Lu EP, Tecton, une police chinoise non identifiée. C'est un festival, et ça ferait hurler un expert en branding d'une agence de com. Et il y a aussi une raison pragmatique. Pour écrire le texte en Chukoknu, le vietnamien romanisé, les accents n'existaient pas encore dans les polices les plus utilisées du monde occidental. Alors ne parlons pas des sinogrammes, les caractères chinois. Eh oui, l'Unicode est arrivé après. Alors cette foison de polices toutes plus baroques les unes que les autres est devenue tellement emblématique de la marque que les concurrents américains et asiatiques en ont mis autant de leur côté. C'est absurde, mais ça peut faire illusion. Parce que la seule chose qui protège le business de Hoi Fong, c'est la marque elle-même, ou plus exactement, le nom de l'entreprise fabricante et son coq dessiné en vectoriel. David Tran étant né en 1945, année du coq. Bah oui, vous avez la recette derrière, vous pouvez refaire la même sauce chez vous. Et même en vous passant des deux additifs conservateurs. Le bouchon vert à dévisser pour ouvrir a aussi été déposé. Mais c'était un brevet industriel qui est passé dans le domaine public. À tel point qu'on le retrouve en rayon sur les pots en plastique de moutarde, mayo, ketchup, etc. Seule évolution notable en 20 ans, le capuchon transparent qui se mettait sur le bouchon à vis vert a disparu. Il faut dire qu'il n'arrivait jamais à tenir et qu'on le perdait systématiquement. Un copain en déménageant en a retrouvé deux dans son ancienne cuisine. On a immédiatement deviné d'où il venait. Mais ce capuchon sauteur est devenu tellement emblématique que nombre de fabricants qui ont repris la sauce ont le même bouchon vert et son capuchon qui se barre avant même que tu mettes la bouteille dans ton panier. Alors tout irait pour le mieux, jusqu'à ce que David Tran, l'embouteilleur, et Craig Underwood, son fournisseur exclusif en jalapeño, ne se fâchent, mettant fin à près de 30 ans d'amitié et de vie familiale partagée. Je l'ai dit, le contrat entre les deux entreprises était purement oral, et de facto exclusif. Mais suite à une prise de bec sur le préachat de la future récolte de 2017, ce contrat tacite a brutalement pris fin.
Plantage.
Eh oui, plantage. Et il a lieu ici. Piquant, non ? La brouille a duré. Le fermier Craig Underwood se retrouvait instantanément à la limite de la faillite à cause des terres qu'il louait pour les cultiver. Et l'entreprise Hoi Fong, endettée par sa nouvelle usine mais n'arrivant pas à trouver des fournisseurs de qualité et au même prix. Ce qui a mené à 2 années de pénurie en sauce Hoi Fong et qui a valu une foison d'articles jusque dans la très sérieuse presse financière alors que les deux entreprises ne sont même pas cotées en bourse. En 2023, pas une seule bouteille n'est sortie de l'usine. Les deux entrepreneurs brouillés ont perdu des millions et ne manquaient pas de s'insulter à longueur d'interviews et de réseaux sociaux. Point de produit en rayon, une situation où la concurrence avait toute la place disponible à prendre. Et la marque Hoi Fong a une telle réputation que les stocks restants se vendaient $80 la bouteille, plus de 20 fois le prix normal. Ni le concurrent au tigre, à l'âne ou au serpent n'ont réussi à prendre la place du coq chez les clients. Le chiffre d'affaires de Hoi Fong est tombé de chiffre inconnu à chiffre inconnu. Je rappelle que la boîte n'est pas cotée en bourse, elle n'a aucune obligation de divulguer son chiffre d'affaires. Il se dit que, juste avant cette crise, une offre de rachat à plus de $130 millions a été faite par un très grand groupe à David Tran, qui l'a refusé par principe. Il a fallu 7 années pour que Hoi Fong retrouve des fournisseurs d'une qualité dans leurs standards, capables de fournir la quantité attendue. 7 ans pour revenir dans les rayons. Underwood est revenu à plus de polyculture, tout en réservant sa production de jalapeño pour sa propre marque de sriracha, Sriracha Dragon, et qui a pour slogan « Le goût originel, c'est nous ».
Ouais, c'est pas faux.
De nos jours, la marque originelle de Sriracha est revenue dans les rayons. L'entreprise Hoi Fong a tenu en partie par des licenciements, mais aussi parce qu'elle avait 2 autres sauces dans son très petit catalogue. Évidemment, la période de pénurie de Sriracha fut l'occasion rêvée pour des centaines de fabricants de tenter de prendre la place. Jusqu'à McIlhenny Company, le numéro 1 de la sauce chili aux États-Unis, avec la marque Tabasco. Ils ont tenté un coup publicitaire en lançant le site srirachashortage.com, pénurie de srirachashortage.com, qui redirigeait vers leur site. Soutenu par de nombreuses collabs avec des influenceurs pour inciter à switcher de marque. Ça n'a pas marché comme prévu. Heinz, le célèbre mastodonte du ketchup et de la moutarde à l'américaine, s'y est mis aussi, avec ce qui fait leur style. Beaucoup, mais alors beaucoup de sucre et d'épaississant. Et plein de polices de caractère différentes pour faire comme la marque originale. Là aussi, les clients n'ont pas été convaincus. Quant au géant thaïlandais de la sauce, Thai Te Parents, il n'a pas réussi à percer en Amérique malgré des moyens conséquents et une marque éprouvée depuis des décennies dans la communauté. Car malgré sa très longue absence, c'est toujours la sriracha originelle, celle de la marque Hoi Fong avec son coq qui est restée la plus plébiscitée dans le monde. Plus simple, moins sucré et bien plus fruité en goût. Je vous l'ai dit, en 2025, c'est la sauce épicée numéro 2 des ventes aux États-Unis derrière Tabasco. Et ceci alors que la recette de la sauce, son nom, tout est tellement open source qu'il existe des entrepreneurs qui n'ont pas hésité à faire des produits dérivés au style très périlleux. Des chaussettes, du baume aux lèvres et des sucettes à la couleur et au nom de Sriracha. C'est moche, tellement ça pique aux yeux. Heureusement, sans le goût. Sinon, c'était dangereux. Selon un article de Fortune paru en 2024, les deux entreprises Huifeng et Underwood Ranches ne pourront pas retravailler ensemble, sauf si l'un des deux patriarches octogénaires cède sa place.
Ah oui, l'aigreur, ça conserve.
Sriracha, c'est donc l'histoire d'une sauce qui a explosé commercialement tout en restant libre de droits. Ce qui fait la différence de la marque est de rester proche de ses clients, de rester sur une recette simple, de ne pas transiger sur la qualité, de ne pas masquer le produit et de garder un prix très raisonnable. Mais c'est aussi l'histoire d'une monoculture, de la codépendance avec un seul partenaire exclusif et de l'absence d'écrit sur un contrat qui est la base de votre business. C'est fou tout ce que l'histoire de cette sauce raconte. Et pour seulement 2200 unités sur l'échelle de Scoville.
You know, baby, I've been meaning to tell you something for a while now. It's really been weighing on me. I just gotta let you know that. Girl, you got a body like Sriracha. Every time I bring you round, the homies wanna watch ya. Got it from your mama, but that ain't what she taught ya. Ay, that's why I call you Lil Racha. Girl, you got a body like Sriracha. Every time I bring you round, the homies wanna watch ya. Got it from your mama, but that ain't what she taught ya. That's why I call you Lil Racha. When you come around, you spice it up. Every time you come around, you know you spice it up. When you come around, you spice it up. Never turn it down, you know how to spice it up. Love your recipe, put me on. What's your secret? Them ingredients you got, girl, that's just my weakness. You're hotter than the summer, baby, I know. You my little ratchet, shining like a rhinestone. Girl, you're setting on them, yeah. Setting fire on them, yeah. You the type I wanna put that on everything. Girl, you got it going, wow. Everybody know it, yeah. That's just what I like. Girl, you got a body like Sriracha. Every time I bring you round, the homies wanna watch ya. Got it from your mama, but that ain't what she taught ya. Ay, that's why I call you Lil Racha. Girl, you got a body like Sriracha. Every time I bring you round, the homies wanna watch ya. Got it from your mama, but that ain't what she taught ya. That's why I call you Lil Racha. When you come around, you spice it up. Every time you come around, you know you spice it up. When you come around, you spice it up. Never turn it down, you know how to spice it up. Get up on it right away. Dinner's warm, my appetite's ready. Cinnamon caramel, yeah, I love the taste. But nothing could take the place of my little ratcha. Girl, you're setting on them, yeah. Setting fire on them, yeah. You the type I wanna put that on everything. Girl, you got it going, wow. Everybody know it, yeah. You the wild type, that's just what I like. Girl, you got a body like Sriracha. Every time I bring you round, the homies wanna watch ya. Got it from your mama, but that ain't what she taught ya. Ay, that's why I call you Lil Racha. Girl, you got a body like Sriracha. Every time I bring you round, the homies wanna watch ya. Got it from your mama, but that ain't what she taught ya. That's why I call you Lil Racha. When you come around, you spice it up. Every time you come around, you know you spice it up. When you come around, you spice it up. Never turn it down, you know how to spice it up.
Martine, Sriracha, ou plutôt Sriracha, comme il dit. Vous écoutez Radio FMR, c'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous allons parler de nouilles cosmiques. Depuis les années 2000, une vague de conservatisme religieux contamine l'éducation aux États-Unis, souhaitant minorer le consensus scientifique pour le remplacer par une vision du monde beaucoup plus conforme aux opinions des intégristes chrétiens, donc basée sur une lecture premier degré et restreinte d'une œuvre de fiction. C'est ainsi qu'en 2005, l'État du Kansas a ajouté au programme scolaire le créationnisme, aussi dit « design intelligent », comme alternative à la doctrine irrationnelle de l'évolution des espèces. Bah oui, on n'est pas sûr que Charles Darwin ait vu juste. Cela peut paraître anecdotique, mais les professeurs de biologie et sciences de la vie doivent donc rappeler à leurs élèves, durant leurs cours, qu'il est tout aussi probable que l'origine du monde date du 23 octobre 4004 avant JC, et que durant le DJC, les hommes vivaient aux côtés des dinosaures. N'en rigolez pas. Car malheureusement, cette opinion est partagée par 40% des Américains selon un sondage Gallup de 2019. Et c'est cette vague conservatrice religieuse qui justifie la censure en bibliothèque publique, la restriction d'accès à certains sites internet, la criminalisation de l'avortement et même des pratiques contraceptives. Afin de montrer la bêtise politique de telles décisions rétrogrades, l'universitaire Bobby Anderson propose dans une lettre ouverte moqueuse adressée au comité exécutif de l'État du Kansas que soit aussi ajoutée dans le cahier des charges du programme scolaire une religion qu'il venait de créer, le pastafarisme. Et donc que ces opinions religieuses soient elles aussi enregistrées comme alternatives viables et sérieuses au darwinisme et au créationnisme. Comme les groupes religieux fondamentalistes et intégristes refusent la médiation, la méthodologie scientifique et le principe intellectuel du consensus, ils auront en face d'eux des gens tout aussi irrationnels qu'eux, avec les mêmes prétentions politiques vis-à-vis d'une religion afin de démontrer leur propre obscurantisme et qu'ils veulent imposer leur merveilleux dogme à la fade réalité du monde réel. Pour Bobby Anderson et les pastafaristes pratiquants, le réchauffement climatique s'explique par la diminution de la population active de pirates borgnes à jambes de bois dans les mers tropicales. Donc, leur quasi-disparition a entraîné l'élévation globale de température, et que donc, pour lutter contre le dérèglement climatique, il faut qu'un maximum de personnes parlent comme des pirates le 19 septembre. Ce n'est qu'une de ces démonstrations par l'absurde des affabulations défendues par les religions autoproclamées sérieuses. Et comme toute religion a une déité, Bobby Anderson a créé la sienne. La mascotte est...
le monstre spaghetti volant.
Le FSM, Flying Spaghetti Monster, est devenu l'idole geek, symbole d'un raisonnement par l'absurde, montrant que tout dogme religieux n'est qu'une construction spirituelle. Toute divinité n'est qu'œuvre de fiction, toute ressemblance avec une personne ayant existé ne serait que purement fortuite. Et qu'en soit, son existence ne peut être contredite par aucun fait scientifique, sinon en heurtant profondément ses principes religieux, tout comme la licorne rose invisible s'accommode de sa propre contradiction. Un dogme ne saurait être remis en question, de là on peut dérouler sa croyance en tout aveuglement. Par Saint Tortellini, Saint Oudon et Saint Farfel.
Amen.
Et selon leur évangile, le fait de ne pas croire au FSM n'est pas grave. On ne va pas se mettre sur la gueule pour si peu, non? Le pastafarisme est une religion sans obligation, sans sacrifice, mais avec des recommandations morales et qui ne parle pas de punition violente, de politique de conversion ou de guerre sainte. Inutile de vous dire que sur le marché de la spiritualité... ça change. Mais au fait, puisqu'on va bâtir un lieu culturel et publier des illustrés pour enfants pour la financer, comment décrire le monstre spaghetti volant? Le tableau de Niklas Johnson, touché par son appendice nouillesque, décrivant la création de l'homme par le FSM, est une parodie de la fresque de la chapelle Sixtine, la création d'Adam par Michel-Ange. Mais il donne une représentation crédible du FSM. Un gigantesque tas de spaghettis flottant dans l'espace, surmonté de deux yeux globuleux et avec deux grosses boules de viande sur les côtés. Et cela risque de froisser bien des gens dans leur compréhension du monde et de la cosmogonie. Mais selon le dogme pastafariste, il n'existe pas de fourchette assez grande pour attraper le monstre spaghetti volant. Alors une paire de baguettes, n'y pensez pas, hein. Le pastafarisme est une religion parodique, proche du discordianisme, aussi dite religion de l'absurde, vouant un culte au chaos naturel depuis sa création aux États-Unis en 1963. Date de la création de la religion, pas du chaos. Quoique, l'assassinat de JFK, la mort d'Aldous Huxley et le premier épisode de Doctor Who, et un week-end d'octobre 1963 qui a dû être construit sur un cimetière indien. Autre spiritualité proche du pastafarisme, la Church of the Subgenius, créée en 1979 pour se moquer des néo-chrétiens et des mouvements religieux New Age en professant le glandage, alias le slack, activité soigneusement pratiquée par son prophète J.R. Bob Dobbs, fumeur de pipe, toujours souriant. Là aussi, une religion parodique créée aux États-Unis. Doit avoir quelque chose en ce pays avec les églises. Peut-être le fait qu'elle ne paie pas d'impôts. Ou que le pays est supposément laïque, mais que le président jure sur la Bible. Trois parodies de religion qui eurent des disciples très actifs dans la Silicon Valley, qui étaient au XXe siècle un épicentre de la contre-culture et qui se moquaient de l'establishment conservateur. Pour mieux prendre sa place ensuite. Désolé, j'ai spoilé. Mais revenons à nos pastas, sinon Jéhovah va encore dire du mal. En moins d'un an, le monstre spaghetti volant devint un mème irrésistible qui éclabousse tout Internet, à tel point que le livre « The Gospel of the Flying Spaghetti Monster », écrit par Bobby Henderson en 2006, devint un réel succès de vente en librairie. Les téléspectateurs avertis virent une copie du dessin original du FSM dans les décors de la première saison de la série britannique « The IT Crowd », tournée même pas 4 mois après l'écriture de la lettre fondatrice du culte. Le FSM et sa mythologie seront très vite adoptés par les groupes s'opposant à des religions comme les Mormons ou à des sectes New Age comme la Scientologie, et surtout pour se moquer de leur soutien politique. Donc, quand vous voyez des références au Flying Spaghetti Monster ou à l'église du Subgenius dans du code informatique, des forums spécialisés ou une démo, dites-vous que c'est une réelle revendication politique par des gens qui savent construire quant à la place accordée à la religion comme autorité morale dans nos sociétés. En 2021, plus de 50% des Français se déclarent athées ou agnostiques, selon l'INSEE. Et je parie que la proportion de personnes qui refusent de considérer toute religion comme autorité morale augmente à chaque nouveau scandale pédophile où l'Église soustrait des prêtres coupables à la justice, à chaque nouvelle revendication du Grand Israël par le Otzma Yehundit, ou à chaque nouvel attentat par des islamistes radicalisés. Que ces gens aient des petits amis imaginaires, soit, mais qu'ils ne se défaussent pas sur eux quand ils commettent des horreurs.
Non.
Bah quoi ? 250 accusations de viol sur mineurs à Betaram par des prêtres catholiques avec déposition de la victime devant des enquêteurs et à peine 2 qui passent en examen devant la justice en France, ça n'est pas un signe d'impunité ? Oh ! Le site officiel spaghettimonster.org vous propose de devenir officiellement prêtre de la religion pour seulement $59 et sans aucune forme de formalité, sinon celle de porter une passoire en couvre-chef lors des cérémonies et en représentation politique. Et attention, un point très important à noter, le pastafarisme peut être vu comme une religion parodique, angle que j'ai pris pour cette chronique, mais cela n'enlève pas le fait que c'est une religion comme les autres, donc avec exactement les mêmes droits que toute autre religion et les mêmes prétentions de passe-droit et exceptions légales. Rappelons que l'église du monstre spaghetti volant n'est pas anti-religion, mais veut éclairer sur la tolérance envers les croyances, donc du principe de laïcité et l'acceptation des faits scientifiques. Car non, la science n'est pas une opinion, elle se base sur des faits indéniables et reproductibles. Et l'État n'a pas à favoriser une religion par rapport à une autre. Cette épopée parabiblique est racontée dans le documentaire « Moi Pastafari, une histoire de monstre spaghetti volant » réalisé par Mike Arthur, disponible sur Amazon Prime et Apple TV. Comme dit le résumé,
« Les pastafariens luttent pour leur liberté religieuse afin d'accéder aux privilèges et aux exceptions à la loi accordée aux autres religions. »
Nous suivons donc des pastafariens pratiquants dans leur combat pour faire reconnaître leur droit à porter une passoire en couvre-chef religieux sur leur photo d'identité en Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche, comme si c'était une kippa juive ou une dastar sikh. Parce que oui, se battre pour une photo officielle où l'on se rend ridicule à des fins religieuses est un acte militant, dénonçant toute prétention de primauté de n'importe quelle religion sur l'état de droit. Bon, je dis ça, mais chaque fois que je vais au Royaume-Uni, je trouve génial que des policiers sikhs portent leur dastar sur leur uniforme. Ou sinon, considérer que porter une passoire sur la photo de son passeport est un manifeste artistique comme quoi la folie fait partie de notre identité, chacun de nous, individu. Et croyez-moi qu'avec la progression des dogmes religieux auprès du personnel politique dans nos pays occidentaux pourtant laïcs, il y en a à sermonner. Et à rappeler que si un dieu unique et omnipotent a besoin d'eux pour être défendu, c'est qu'il ne doit pas être si puissant que ça. La preuve, le blasphème n'est plus condamnable. Et pourtant, aucun dieu ne s'en est plaint ou a foudroyé le pays d'une plaie mythique en épargnant ses fidèles. Au contraire. Bref, la prochaine fois que quelqu'un tente l'argument d'autorité dans une discussion en répliquant
« Et Dieu dans tout ça ?»
répondez
« Il doit s'en secouer la nouille. »
Einst waren die Pole dick vereist, das Meer wurde von Piraten bereist. Doch die mussten weichen, Der Geist wurde ärmer, das Wasser stieg, denn es war ja nun wärmer. Oh Monster unser, lass dich lobhudeln, zur Rettung bringst du Nudeln. Diski, Gigli, Macaroni, Gnocchi, Penne, Cannelloni, Ravioli, Tagliatelle, Paternoster, Pappardelle, Alfabetto, Tortellini, Ondule und Quadratini, dicke, lange, große, Hauptsache mit Soße.
Bruder Spaghettus, inna men der Nudel.
Die einen beten Jesus an, andere halten Ramadan. Viele wollen wie Buddha sein, manch einer wünscht sich nen Heiligenschein. Nicht Odin, Zeus und Zoroaster, für uns zählt nur die Pasta. Whisky, Gigli, Macaroni, Gnocchi, Penne, Cannelloni, Ravioli, Tagliatelle, Paternoster, Pappardelle, Alfabetto, Tortellini, Ondule und Quadratini, dicke, lange, große, Hauptsache mit Soße. Ob Tora, Bibel oder Koran, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Nächstenliebe, Höllenqual, Sündenfall und Jammertal. Wer's nicht glaubt, den trifft der Fluch, ach, gäb es doch nichts als das Kochbuch. Whisky, Gigli, Macaroni, Gnocchi, Penne, Cannelloni, Ravioli, Tagliatelle, Paternoster, Pappardelle, Alfabetto, Tortellini, Ondule und Quadratini, dicke, lange, große, Hauptsache mit Soße. Rigatoni, Schibiotini, Trenesiti, Fedelini, Bigoli und Fettuccine, Campanelle, Ballerine, Ruotine und Maletti, Italiana und Spaghetti, heilig sind nun diese Namen, Pasta aus und Ramen.
Vous écoutez Radio FMR? CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous parlons de nouilles. Dans ce qu'elles font le plus peur.
Le code spaghetti, ou programmation spaghetti en bon français, désigne un logiciel incompréhensible au motif que son auteur a fait un usage excessif d'instructions de saut, particulièrement des instructions non structurées. Bon, je sais, juste avant de passer à table, la transition est rude. Reprenons. Un programme d'ordinateur se compose de fichiers de code source qui s'écrit dans un langage de programmation, où le programmeur donne ses instructions à la machine. L'arrivée du mot spaghetti en informatique remonterait aux années 60. Dans son article de 1972 pour l'ACM, Association for Computing Machinery, Martin Hopkins propose
d'éliminer l'instruction goto dans l'espoir que les programmes cesseront ainsi de ressembler à un plat de nouilles.
Le terme est repris dans plusieurs livres et articles tout au long des années 70 et 80, et plus récemment dans le rapport d'expertise judiciaire sur l'accélérateur électronique des voitures Toyota, dont le logiciel Bogey serait responsable de dizaines d'accidents mortels entre 2005 et 2009. On ne rigole plus. En informatique, un code incompréhensible implique d'être un nid à bogues et impossible à maintenir, c'est-à-dire que personne n'a envie de corriger. Dans The Art of Doing Science and Engineering, le dernier livre de Richard Hamming, il est mort l'année suivante, l'auteur remonte avant l'invention des langages de programmation, quand les programmeurs écrivaient directement les instructions machines comprises par le processeur, en binaire. Insérer des instructions pour corriger un algorithme aurait nécessité de déplacer toutes les instructions suivantes, et notamment recalculer tout un tas d'adresses mémoire. Il était donc plus simple de remplacer une instruction par un saut vers une région mémoire inutilisée, y placer les instructions à ajouter, puis terminer par un saut vers la suite du programme.
Comme une parenthèse en plein milieu d'une phrase à rallonge. Ouais, exactement ce qu'on évite de faire en radio.
Sauf que quand vous placez des correctifs aux quatre coins de la mémoire au lieu d'attaquer le problème à la racine, c'est-à-dire réécrire le programme, vous pouvez être sûr que ça finira mal. Non seulement vous ne viendrez pas à bout des erreurs, mais en plus le résultat sera ingérable parce que le chemin d'exécution à travers tous ces sauts finira par ressembler à un plat de nouilles. Quand je disais que c'est une correction plus simple, c'était à court terme. Certains disent repousser le tas de sable. J'ai jamais compris cette expression, il me semble que quand on pousse un tas de sable, il s'étale. Cacher la poussière sous le tapis, à la rigueur.
Tapis est caché. Observons dans son habitat naturel comment se manifeste le code spaghetti en langage machine, mais aussi dans différents langages de programmation.
Les premiers langages évolués sont Fortran, Lisp, COBOL et ALGOL entre 1957 et 1959. Ces langages n'étaient qu'une première itération dans le long chemin vers plus d'abstraction, Il gardait le concept de saut vers une adresse provenant du langage machine, mais au lieu d'opcode spécifique à chaque machine, l'instruction s'appelle GoTo, ou GoTo en deux mots, aller à. Toutefois, la destination n'est pas un nom, mais le numéro de la ligne vers laquelle dérouter l'exécution. Mais c'est surtout par le BASIC, dans les années 80, que notre génération a invoqué l'infâme GoTo. En BASIC, sans GoTo, le programme s'exécute en ligne droite et se termine très vite une fois arrivé au bas des lignes de code que vous avez tapées. Enfin, vous pouvez faire des boucles fortes, mais toujours avec des numéros de ligne. BASIC avait un début de programmation structurée, mais sans indentation et sans pouvoir nommer les sous-programmes. Spaghetti assuré. Des dialectes de BASIC ont bien fini par rendre les numéros de ligne optionnels, se doter de boucles while repompées du langage Pascal et nommer les sous-programmes plutôt que faire GoSum numéro de ligne. Mais pour cela, il faudra attendre GFA BASIC, Turbo BASIC et autres Quick BASIC, on en a déjà parlé dans cette émission. J'ai mentionné plusieurs fois programmation structurée. Mais qu'est-ce donc ? C'était censé être le vaccin contre le code spaghetti. Si on élimine le GoTo à la racine, les programmes n'en seront que plus maintenables, n'est-ce pas ? En programmation structurée, on remplace l'unique GoTo par plusieurs instructions spécialisées, si dans les boucles, là dans les tests de conditions, etc. Fin de la sous-fonction, retournons au programme principal. En 1968, l'honorable professeur Edgar Dijkstra, dans une lettre à ses honorables confrères, ne propose pas du tout de remplacer les numéros de ligne par « ifs and else », mais suggère que ces conditionnels sont inutiles car exprimables par le concept de récursion. C'est parfaitement exact en informatique théorique, c'est-à-dire en théorie. Mais prendre cela au pied de la lettre pour en faire un langage de programmation, eh bien ça a été fait, dans Lisp, Scheme, des langages fort élégants et utilisables que par quelques super-héros, dont Daniel Gossens. À cet article « GoTo Statement Considered Harmful » de Dijkstra, un certain Frank Rubin répondit par une lettre intitulée « GoTo Considered Harmful, Considered Harmful », à laquelle Donald Moore répondit par une lettre intitulée « GoTo Considered Harmful, Considered Harmful, Considered Harmful ». Quant à Edgar Dijkstra, lui aussi se fendit d'une réponse intitulée
« À propos d'une correspondance assez décevante. »
Si, si. Tous les liens sont dans le texte de ma chronique. GoTo, notre site web. Est-ce que ces joutes oratoires ont fait progresser le problème du code spaghetti ? Le professeur Dijkstra en disserte dans son livre « Structured Programming ». Que si vous cru qu'il advint ? Un article de 12 pages intitulé « Structured Programming Considered Harmful » par un universitaire new-yorkais. Et un autre article du même titre, cette fois par deux étudiants, 3 ans plus tard dans le même journal. À l'époque, on savait rigoler. Vos trolls sont fades. Même Donald Knuth, l'auteur de la Sainte Bible, l'art de la programmation en 7 évangiles, s'en est mêlé en 1974 dans son article « Structured Programming with GoTo Statements ». Ouais, ils sont lourds. Revenons au langage machine. Au tout début de l'ENIAC, les programmes s'écrivaient en déplaçant des cordons comme dans un central téléphonique d'arrière-grand-papa, mais la machine ensuite était transformée selon les préceptes de John von Neumann. Le programme devenait stocké en mémoire, une vraie révolution. Comme nous l'a expliqué le professeur Hamming, les programmeurs pouvaient être tentés de patcher leur code à coups de sauts opportunistes parce que flemme. Puis vint le premier ordinateur commercial, le BINAC, sur lequel on trouve le langage C10, ancêtre de l'assembleur, une notation symbolique pour le langage machine. Et on n'a jamais cessé de programmer en langage machine. Dans le BIOS de votre ordinateur, dans votre compilateur C++, il y a du code en assembleur. Certes, plus besoin de calculer les adresses à la main, mais le langage machine n'est pas structuré, et s'il est parfaitement possible de structurer volontairement son programme, il faut une discipline de fer pour échapper à la malédiction du code spaghetti. Vous programmez exclusivement en langage structuré ? Vous pouvez créer du couplage horriblement complexe sans même passer par des instructions. Il suffit de faire n'importe quoi avec les données. Hé, hey, les devs C++, osez me dire en face que vous n'avez jamais écrit le mot-clé friend. Et il y a mille et une façons de sauter, même sans GoTo.
Eh oh !
Très peu de langages poussent la pureté de la programmation structurée au point d'interdire plus d'un point de sortie par sous-programme. En C, PHP, JavaScript, vous pouvez mettre return autant de fois que vous voulez. Mais réfléchissez un instant. Si vous avez plusieurs motifs de sortie, est-il plus lisible d'assigner une variable drapeau que vous testerez à plusieurs endroits de votre fonction ? Non seulement vous l'alourdissez à chaque vérification, mais en plus, en l'indentant, vous la décalez dangereusement vers l'extrême droite. En interdisant les returns multiples, vous n'aurez fait que déplacer le problème, et pas que de tabulation. Alors déstructurez un peu votre programmation. Vous avez ma bénédiction tant que vos fonctions tiennent en une page écran. J'accuse la règle 15.5 de la norme MISRA C2012 d'hérésie. Et si interpeller Toyota sur le nombre de règles MISRA non respectées était parfaitement justifié, il serait naïf de croire que ces règles seules suffiraient à obtenir un code source de bonne qualité. Il y a pire ! Il faut que je vous parle de multitâche et du langage intercal. A priori, aucun rapport. Intercal est un langage inventé par deux potages de l'université de Princeton ayant manifestement beaucoup trop de temps libre. Imaginez un langage où il faut écrire plusieurs fois « please » devant les instructions pour augmenter les chances qu'elles soient réellement exécutées. Le consentement déjà. Et ces grands malades ont décrété que pour sortir d'une boucle, il fallait dire « oublie de reboucler » avec une instruction « forget ». Et c'est pas tout. Dans un article satirique de 1973, Lawrence Clark se moque de l'article « Go to statement considered harmful » et propose l'instruction « come from » qui a été ajoutée en C intercal. Vous pouvez écrire n'importe où dans le programme un « come from 120 » et quand l'exécution arrivera à la ligne 120, qui n'avait rien demandé, le flot de contrôle sera dérouté vers la ligne contenant le « come from 120 ». L'enfer à déboguer. Il faut connaître par cœur la totalité du code source. Le rapport entre « come from » et le multitâche ? À votre avis, que se passe-t-il si le programme contient deux lignes « come from 120 » ? Dans les vieux dialectes d'intercal, l'exécution est non déterministe, ce qui, vous me direz, est approprié pour un langage BDSM dont la bonne exécution dépend du nombre de « please ». Mais en threaded intercal, les deux « come from » s'exécutent en parallèle, parce que, pourquoi pas ? Le programme se divise en deux qui vivent joyeusement leur vie. Enfin, joyeusement, tant qu'ils n'accèdent pas aux mêmes variables, qui sont globales. Vous commencez à comprendre. Les communications entre files d'exécution dans la programmation concurrente, encore un bon plat de nouilles. Et je n'ai pas parlé des exceptions, cette drogue dont abusent certains programmeurs Java ou Python, à tel point que vous n'êtes pas sûr d'où vous ressortirez. Des exceptions, une bonne idée pour la gestion d'erreurs, un cauchemar si on les laisse se propager. GoTo existe en C, en C++, même en Pascal, même en Go, tout ! Il existera dans beaucoup de langages à venir, et c'est pas le problème. Car le code spaghetti, il est dans le cerveau brumeux de certains développeurs. Pour éviter que vos programmes deviennent ingérables, ce n'est pas la programmation structurée qui vous sauvera, mais le bon goût et l'architecture. Alors, documentez, documentez, il en restera toujours quelque chose. Refactorisez-moi ces fonctions de 500 lignes, et par pitié, n'appliquez pas bêtement les design patterns juste parce que vous venez de lire un livre. Le problème avec le logiciel n'est pas le code spaghetti ni l'incompétence des programmeurs. Quoique. Non. C'est que l'ordinateur est tellement versatile, le programmeur peut manipuler à lui seul une telle quantité d'unités de complexité qu'il est injuste de lui mettre sur le dos les bugs qu'il commet. Car enfin, comparez la productivité d'un software avec celle d'un électronicien et on en reparle. D'ici là, et j'ai largement le temps de me faire remplacer par une IA généraliste, chantons les louanges de John von Neumann, visionnaire créateur de l'ordinateur à programme stocké en mémoire, qui a publié l'idée trop tôt, ruinant ainsi tout espoir de ses collègues de breveter l'EDSAC.
Et vous n'en mangez pas, vous, des pâtes.
Des pâtes, oui, mais des
pâtes. C'était CPU, le programme thérapeutique utile de Radio Éphémère. Dans la série est maintenant quelque chose de totalement différent. Release EX0242, ramène ta pasta. Cette release, l'équipe est composée de Enflammé Chief Ramen Officer, Daskritch Chief Noodle Officer, Benoît Chief Pasta Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. La cuisine a été intégralement maison et bio. L'intégralité du programme, des extraits et nos sons sont disponibles sur notre page web cpu.pm/242. Vous pouvez commenter et partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez en direct sur Radio FMR analogique ou numérique, et qu'il est jeudi, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet, ça tombe bien, à table ! FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+, et en stream sur Internet.